Voici le journal de Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce qu'on a fait, c'est bien, alors on continue. Voilà le message d'Emmanuel Macron, le président face à la presse pendant 2h30 pour tirer les conclusions du grand débat et répondre à la crise des gilets jaunes. S'il y a quand même quelques concessions, pas sûr qu'elles ne suffisent à calmer la colère.
Mythomane et surtout meurtrier Jean-Claude Roman va pouvoir sortir de prison.
26 ans après avoir tué toute sa famille, le faux médecin de l'OMS obtient la liberté conditionnelle. Dans ce journal, nous serons dans les rues de Khartoum, au Soudan, où des milliers de personnes manifestent contre l'armée au pouvoir.
Et puis nous irons également aux États-Unis où le tableau est a priori complet pour la primaire démocrate en vue de la présidentielle. Joe Biden officialise sa candidature.
Rien ne sera plus comme avant, c'était la promesse de l'exécutif. Et pourtant, à entendre Emmanuel Macron hier soir, on a quand même l'impression que si, ce sera quand même un peu comme avant.
Je pense très profondément que les orientations prises durant ces deux premières années, à bien des égards, ont été justes. Mettre l'école, le mérite, le travail au cœur de notre ambition était indispensable. Décider à investir, produire davantage pour redevenir une nation forte, en menant toutes les réformes nécessaires pour cela, était indispensable aussi pour pouvoir financer la solidarité ensuite qu'on veut pouvoir se payer. Moderniser notre économie, réduire nos déficits publics, réarticuler une vraie ambition européenne face à toutes ces menaces était, je le crois très profondément, de bonnes orientations. Je crois donc que ces fondamentaux des deux premières années doivent non seulement être préservés, poursuivis et intensifiés.
Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Finalement, le changement, ce n'est pas vraiment maintenant ?
Non, on vient de l'entendre. D'ailleurs, ce qui a été fait jusqu'ici, c'est déjà beaucoup. Le chef de l'État l'a répété à 6 ou 7 reprises hier soir. Le travail, l'emploi, beaucoup de choses ont été faites depuis 2 ans. Même chose pour le climat, pour l'éducation. Beaucoup de choses ont été faites. Le problème est que ce sont des choses qui ne se voient pas forcément tout de suite. Mais regardez, ça commence à porter ses fruits. A-t-il fait remarquer, on a créé 500 000 emplois au cours des deux premières années. C'est pour ça qu'il faut aller encore plus loin. Il a donc déclaré vouloir ne pas renoncer à ses ambitions, notamment en matière de réduction de la dépense publique et vouloir continuer à transformer le pays.
Et puis le président fait quand même quelques concessions.
Oui, première concession, la réduction du nombre de fonctionnaires. Il voulait en supprimer 120 000, il ne le fera pas. Les petites retraites, elles vont être réindexées sur l'inflation. L'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, il sera réduit d'environ 5 milliards d'euros. Il a également reconnu son erreur d'avoir négligé, voire méprisé les corps intermédiaires, les élus locaux notamment. Il a vanté à plusieurs reprises le rôle et le travail des maires. Les journalistes également qui étaient en face de lui. C'est par votre truchement, a-t-il déclaré, que je m'adresse aux Français, comme une manière de reconnaître le rôle et l'importance de la profession. Et puis il a reconnu ne pas avoir été suffisamment humain dans sa volonté de transformer la société française et en particulier de ne pas avoir suffisamment associé les Français, les citoyens aux prises de décision. C'est la raison pour laquelle il a dit vouloir abaisser le seuil de déclenchement du référendum d'initiative partagée à 1 million de signatures contre 4 500 000 actuellement. On a donc un certain nombre de concessions, mais essentiellement sur l'attitude et sur la méthode.
Et donc globalement, pas vraiment de changement de cap ?
Non, pas de changement de cap, mais une prise en compte tout de même de la contestation et de la colère qui s'est exprimée à travers la reconnaissance d'un certain nombre de traits spécifiques aux Français, à la population française et la reconnaissance du fait que les Français ont le droit d'exprimer cette spécificité. Il a dit ça en employant l'expression « l'art d'être français ».
L'art d'être français, c'est être à la fois enraciné et universel, être attaché à notre histoire, nos racines, mais embrasser l'avenir. C'est cette capacité à débattre de tout, en permanence. Et c'est très profondément. Décider de ne pas nous adapter au monde qui nous échappe, de ne pas céder à la loi du plus fort, mais bien de porter un projet de résistance, d'ambition, pour aujourd'hui et pour demain.
Si l'on entend bien, on s'aperçoit que sa définition de l'art d'être français correspond tout aussi bien aux Français qu'à lui-même. Lui aussi est français, lui aussi débat de tout et tout le temps, lui aussi est résistant, lui non plus n'entend pas s'adapter à la situation. Il va donc aussi porter un projet de résistance à ce qu'ont voulu lui imposer les Français et les Gilets jaunes.
Stéphane Robert du service politique de France Culture. Travailler plus, c'est l'un des appels lancés par le président aux Français, seule façon de financer la baisse des impôts. Mais surtout, Emmanuel Macron l'assure, parce qu'aujourd'hui, on travaillerait moins que nos voisins. C'est vrai, Annabelle Grelier ?
Si l'on compare les heures de travail par habitant, les Français travaillent environ 630 heures par an, quand les Allemands font 722 heures et les Américains 826 heures. Mais la France est aussi le pays où le taux de chômage est le plus élevé. Donc si l'on calcule le nombre d'heures travaillées par le nombre, non pas d'habitants, mais par le nombre de personnes en emploi, eh bien là, le résultat d'après l'OCDE est bien différent. Les Français travaillent en moyenne 1514 heures par an, soit 12% de plus que les Allemands et autant que les Anglais. La productivité productivité des travailleurs est aussi supérieure à leurs voisins allemands ou britanniques. Sur la durée totale passée à travailler, les Français sont dans la moyenne européenne. D'après les dernières statistiques d'Eurostat, 35,2 années contre 35,9. La France n'est pas non plus le pays d'Europe qui compte le plus de jours fériés. Et si les Français partaient jusque-là en moyenne plutôt à la retraite, les dernières estimations tendent à montrer que ce n'est plus le cas. En conclusion, les Français ne travaillent pas moins que les autres et la bonne formulation, si l'on veut augmenter la production, serait une nécessité non pas de travailler davantage, mais d'être davantage à travailler. Bref, réduire le taux de chômage.
Et que pensent les gilets jaunes de tout cela? Après tout, cette réponse, c'est d'abord à eux qu'elle est censée s'adresser. À Châteauroux, ils étaient une bonne trentaine à suivre ensemble l'intervention du président. Sarah Tucherer a passé la soirée avec eux.
À l'écoute de leur téléphone portable, les gilets jaunes sont vite agacés par un discours qui, selon eux, manque de concret.
C'est ainsi que nous pourrons reconstruire ensemble très profondément l'art d'être français.
Mais c'est vide, c'est dingue.
Et quand Emmanuel Macron annonce un moratoire sur la fermeture des écoles et des hôpitaux jusqu'en 2022, il suscite carrément des sarcasmes.
La maternité, ça a été fermé avant.
Ils vont ouvrir la maternité du blanc.
La maternité du blanc rouvrira-t-elle un jour? C'est ce que se demande Carole.
J'attends de voir, qu'est-ce que ça veut dire?
Secrétaire départemental de la CGT Éducation, José Manuel Félix a envie de prendre au mot le président concernant le maintien de toutes les écoles.
On va tout simplement vérifier qu'il n'y ait aucune fermeture d'école. On va se poser la question dans l'Indre, d'une école, donc l'école de Sarzé, et là on va demander qu'il y ait ce moratoire-là.
Sur le pouvoir d'achat, le chef de l'État a déçu Sonia espérer des mesures immédiates.
Il veut baisser les impôts, mais c'est pas cette année. Ça sera sur l'année prochaine. Moi, demain, ma vie ne va pas changer.
Hier soir, les gilets jaunes n'ont pas attendu la fin des questions-réponses avec les journalistes pour quitter la place de la mairie et rentrer chez eux.
France Culture à Châteauroux avec Sarah Tucherer et dans une dizaine de minutes, Frédéric Saïs poursuivra sur le sujet les questions qui n'ont pas été posées et les annonces qui n'ont pas été faites. C'est le thème du billet politique juste après ce journal. Peu de précisions sur le financement de la dépendance dans cette conférence de presse. Emmanuel Macron dit simplement que des propositions seront faites sur le sujet d'ici cet automne. Mais il y a urgence. Aujourd'hui, déjà, les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, manquent de moyens financiers et humains. C'est ce que rappelle Solène Lebaron-Lefloc. Elle est secrétaire nationale du syndicat UFAS.
Il manque énormément de personnel actuellement en maison de retraite pour qu'on puisse faire raisonnablement et convenablement notre travail. Je prends un exemple concret. Quand on doit être trois sur un service lourd, avec une vingtaine de résidents où on doit les faire manger, les aider à s'habiller, faire les soins divers possibles dont ils ont besoin pour être bien dans leur peau, pour être soignés, et que finalement une ne vient pas, on se retrouve à deux à devoir faire le même travail. Le résident, il n'a pas demandé à ce qu'on soit que deux. Donc nous allons faire tous les efforts possibles pour obtenir le même résultat que si on avait été trois. Sauf qu'à deux, c'est le soignant qui s'épuise. Et le soignant, derrière, c'est pas un super-héros non plus. Ça reste aussi un être humain. Et un être humain qui, comme je le disais, a besoin de reconnaissance. Peut-être aussi une reconnaissance financière. Parce que nous sommes pas chers payés, mais vraiment pas chers du tout, pour l'importance de notre métier. On nous demande d'en faire toujours plus avec déjà moins de personnel, moins de moyens. Et là, ça devient très compliqué pour le soignant. On est au burn-out, hein. Et la maltraitance fait partie du burn-out.
Chez soi ou en EHPAD, vieillir dans la dignité, c'est le grand reportage de la rédaction. Signé Maxime Fayol et réalisé par Emmanuel Faucillon, il est à écouter à 17h dans l'émission d'Aurélie Kiefer. 26 ans après ces crimes, la justice va libérer Jean-Claude Roman. Le faux médecin condamné à perpétuité pour avoir tué son épouse, ses deux enfants et ses parents vient d'obtenir une libération conditionnelle. Il devrait sortir avant l'été, son avocat Jean-Louis Abad.
Il est bouleversé. Il repense aux siens. Je vous rappelle tout de même que c'est un drame familial, mais qui touche des gens qu'il a aimés, des gens qui l'ont aimé. Et donc, il n'y a pas de triomphalisme, ni chez lui, ni chez moi. Il ne peut y avoir de triomphalisme chez personne dans une affaire aussi douloureuse que celle-ci.
Il a payé les 4 millions d'euros de caution. Carlos Ghosn, lui, n'est déjà plus en prison. L'ancien patron de Renault-Nissan, soupçonné de détournement de fonds, est assigné à résidence et n'a pas le droit de quitter le Japon.
8h10 sur France Culture, la suite du journal dans les matins de Rosalie Lafarge. Une foule immense manifeste au Soudan.
À l'appel des chefs de file de la contestation, les Soudanais ont défilé dans les rues de Khartoum avec cette grande manifestation baptisée la Marche du Million. L'opposition veut faire plier le conseil militaire et confier le pouvoir à une autorité civile, Nadia Blétry.
Des chants, des slogans et de l'espoir pour une population dont la voix a été passée sous silence pendant 30 ans. Les manifestants sont venus de tout le pays jeudi pour répondre à l'appel de l'opposition et défier pacifiquement le conseil militaire de transition qui dirige le Soudan.
Je suis là pour soutenir la révolution qui a commencé chez moi, dans la ville d'Atbara. L'ancien régime n'est pas totalement détruit, car on voit encore des visages de cette époque. Donc, il ne faut pas s'arrêter de manifester. On va rester là jusqu'à ce qu'on ait tout obtenu.
L'autre rêve de la foule, c'est d'avoir enfin accès à une justice qui lui a été refusée pendant des décennies.
On se rassemble dans cette marche du million pour demander la reconnaissance de nos droits, mais aussi pour que l'ancien régime rende compte de ses actes. On n'a pas envie que ses représentants finissent dans des prisons luxueuses, mais qu'ils soient punis pour leurs crimes, leurs viols, leurs génocides. La deuxième chose qu'on veut, c'est un gouvernement civil.
Le Conseil militaire de transition a dû prendre acte ce jeudi de l'ampleur de la mobilisation populaire au Soudan.
Reportage de Nadia Blétry à Khartoum pour France Culture. Les autorités le soupçonnent d'être l'homme clé des attentats de dimanche. L'extrémiste sri-lankais Zahran Hashim est mort dans les attaques. Le président l'annonce ce matin. Les explosions dans les églises et hôtels de luxe ont fait 253 morts. Bilan revu à la baisse mais toujours très lourd. Et à l'instant, le chef de la police démissionne à la suite de ces attentats. Le cyclone Kenneth frappe le Mozambique. Arbres arrachés, coupures d'électricité. Les vents violents ont touché hier soir le nord du pays. Joe Biden se lance officiellement dans la course à la présidence. À 76 ans, l'ancien vice-président démocrate se pose en gardien d'une Amérique des valeurs comme un rempart à Donald Trump. Il a pour lui ses 45 années d'expérience en politique, mais aussi les casseroles qui vont avec. Et en la matière, Loïc Loury, Joe Biden est un collectionneur.
Je suis une machine à gaffe, reconnaissait Joe Biden en décembre dernier. Pour cause, le candidat en la matière possède un tableau de chasse bien rempli. Exemple en 2010, lorsqu'il s'adresse ainsi au Premier ministre irlandais le jour de la Saint-Patrick.
Sa maman a vécu 10 ans à Long Island, quelque chose comme ça. Que Dieu ait son âme. Mais attendez, votre mère est toujours en vie, c'est votre père qui est mort. Que Dieu ait son âme.
Des bourdes, parfois jusqu'à la faute politique, des mots d'esprit souvent graveleux, voire racistes, Joe Biden franchit régulièrement la ligne.
Dans le Delaware, la population qui connaît la plus forte croissance, ce sont les Américains venus d'Inde. Vous ne pouvez pas entrer dans une épicerie ou chez Dunkin' Donuts à moins d'avoir un léger accent indien.
Mais sa faute morale la plus grave reste sa gestion de l'affaire Anita Hill, du nom de cette jeune femme qui en 91 accusait Clarence Thomas, nommé à la Cour suprême, de harcèlement sexuel. Lors de ses auditions, elle sera accablée par une commission supervisée par Joe Biden.
Êtes-vous une femme aigrie ?
Il me semble que vous n'avez pas vraiment essayé de le tuer. Mais peut-être auriez-vous dû.
Un boulet qui devrait peser sur sa campagne. Au premier jour de celle-ci, il a d'ailleurs appelé Anita Hill pour s'excuser.
Loïc Loury. La tension monte entre la Russie et l'Ukraine. Depuis 3 jours, les deux pays n'arrêtent pas de se provoquer. Moscou veut délivrer des passeports aux Ukrainiens du Donbass. À Kiev, on vote une loi pour renforcer la pratique de la langue ukrainienne dans le quotidien. Depuis l'élection de l'humoriste Zelensky à la présidence en Ukraine, c'est un vrai match qui se joue, Nathanaël Charbonnier.
Chaud, froid, en l'espace d'une semaine, les deux pays n'ont cessé de se chercher, avec dans la ligne de mire le nouveau président Zelensky, élu dimanche avec plus de 73% des voix. Zelensky se retrouve en effet coincé entre d'un côté la stratégie de Vladimir Poutine et de l'autre celle de l'ancien président Porochenko, toujours aux commandes du pays pendant encore un mois et qui prépare déjà les élections législatives. Zelensky, punching ball des Russes qui souhaitent tester sa résistance en proposant de distribuer ses passeports sur le territoire ukrainien dans l'Est. Zelensky, punching ball de l'actuel président qui, après sa défaite, entend lui compliquer la vie au maximum, d'où le vote de cette loi qui vise à renforcer l'usage de l'ukrainien. Autant dire que le baptême du feu du nouveau dirigeant est vif. Il s'agit pour la Russie, mais aussi pour Porochenko, de tester les nerfs de Zelensky. Chaud, froid, la passe d'armes inquiète en tout cas l'Europe, qui est intervenue hier dans le débat. L'Europe qui sait très bien que le dossier ukrainien est central dans la relation que l'Occident entretient avec la Russie.
Les précisions de Nathanaël Charbonnier. Il fait beau ce matin à Paris, mais encore beaucoup de pluie aujourd'hui en France. Et entre les averses, nous aurons droit à des nuages. Pour les températures, on est entre 12 et 16 degrés à la mi-journée, jusqu'à 19 près de la Méditerranée.